Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 2 mars 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran s'oppose fermement à toute utilisation d'armes chimiques. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Ukraine, l'opération militaire russe s'intensifie au 7e jour de guerre. La Grande-Bretagne et la France insistent sur des positions non constructives dans les pourparlers de Vienne. Et puis, les forces israéliennes tuent un troisième Palestinien en Cisjordanie en moins de 24 heures. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'opération militaire russe s'intensifie au 7e jour de guerre, les grandes villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, étant la cible d'attaques. Des affrontements ont éclaté dans la ville de Kharkiv, au nord-est, où des troupes aéroportées russes ont atterri. Les autorités de la ville affirment qu'au cours des dernières 24 heures, près de 12 de personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées dans des bombardements. Dans la capitale Kiev, une frappe aérienne sur la principale tour de télévision a fait 5 morts. Les forces russes ont également pris le contrôle total du centre régional de la ville de Kherson sur la mer Noire. Dans de nouvelles remarques, le président ukrainien a affirmé que près de 6000 Russes ont perdu la vie pendant le conflit en cours. Jusqu'à présent, aucun commentaire des responsables russes. Vladimir Zelensky dit également que Moscou ne peut pas gagner la guerre avec des bombes et des roquettes. Mais le ministre russe de la Défense s'est engagé plutôt à poursuivre l'opération jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Sachez également que l'opération militaire de la Russie en Ukraine ébranle les marchés mondiaux. Les prix du pétrole continuent leur flambée. Le baril de Brent dépasse les 110 dollars pour la première fois depuis 2014, poussé par l'opération militaire russe en Ukraine et les craintes pour l'approvisionnement mondial à cause des sanctions russes. Les pourparlers de Vienne, la Grande-Bretagne et la France insistent sur des positions non constructives dans les pourparlers de Vienne. Avec l'arrivée des pourparlers sur les sanctions à Vienne à un moment critique, la Grande-Bretagne et la France continuent d'insister sur des positions non constructives qui menacent de parvenir à un accord final. L'équipe négociatrice iranienne à Vienne souligne que la clôture du dossier des revendications politiques de l'Agence internationale de l'énergie atomique contre l'Iran est nécessaire pour parvenir à un accord final. Au retour de toutes les parties au Conseil de la IOA, il n'est pas accepté que nous acceptions le système strict de vérification et d'essai de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et en même temps, certaines de nos questions sont à l'ordre du jour du Conseil des gouverneurs de la IOA, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Si l'Occident n'agit pas de manière réaliste dans ces circonstances sensibles, il sera certainement responsable de l'échec possible des pourparlers, a conclu le très haut diplomate iranien. Droits de l'homme, la nomination d'un reporter spécial pour l'Iran est fondée sur les motivations politiques. Le chef adjoint aux affaires internationales du pouvoir judiciaire, le secrétaire du Conseil des droits de l'homme de la République islamique d'Iran, a déclaré que la nomination d'un rapporteur spécial pour l'Iran est basée sur des menus politiques. Kazem Gharibabadi a rencontré Michel Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en marge de la 49e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Avec ses reportages irréalistes, partiels et partiaux, ce reporter est pratiquement devenu un outil politique et au-delà de toutes les règles régissant le travail des rapporteurs des droits de l'homme, il est entré dans des domaines fondamentalement contraires à ses fonctions, a ajouté l'ancien diplomate iranien. Les derniers commentaires de Lindsey Graham, sénateur républicain américain sur les scientifiques nucléaires iraniens, suscitent l'indignation des autorités iraniennes. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU a qualifié ses propos de provocateurs et d'incitation à la terreur. Majita Travanchi dit que les commentaires de Graham sont une incitation à de nouveaux actes terroristes contre les scientifiques iraniens. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a qualifié ses propos de répugnants, odieux et répréhensibles. Il a déclaré qu'une telle rhétorique ne sert que de feu vert au régime israélien pour perpétrer davantage d'actes terroristes contre les scientifiques nucléaires iraniens. L'Iran a critiqué la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui étend l'embargo sur les armes à l'ensemble du mouvement populaire et révolutionnaire du Yémen Ansar Allah. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la résolution aurait des conséquences négatives sur la voie de la paix et éloignerait davantage la position des parties en conflit. Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, a adopté lundi la résolution proposée par les Émirats arabes unis avec 11 voix pour et 4 abstentions. Khatibzadeh a qualifié la résolution de politiquement motivée, ajoutant qu'elle avait été adoptée grâce au lobbying des pays agresseurs. Il faisait indirectement référence à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui a lancé une guerre contre le Yémen en 2015. Cette autorité iranienne a averti que la décision du Conseil de sécurité entrave les efforts de reprise du processus politique et prolonge la catastrophe humaine au Yémen. Un officier de l'armée syrienne et un soldat ont été tués par des miliciens kurdes soutenus par les États-Unis dans la campagne nord-ouest de Hasake. Les décès sont survenus lorsqu'un point de contrôle de l'armée a été attaqué à Taltamer. Une source militaire affirme que l'armée a empêché un convoi américain composé des forces kurdes de passer par le poste de contrôle du village de Rosalia. L'armée a affronté les miliciens, dont plusieurs ont été blessés. Les États-Unis ont stationné leurs forces dans le nord-est de la Syrie depuis 2015. Malgré une forte opposition de Damas, ils ont porté un soutien majeur aux forces armées kurdes actives dans la région. La Syrie accuse les États-Unis de violer sa souveraineté et de voler son pétrole. Enfin, les forces israéliennes ont tué un troisième Palestinien en Cisjordanie en moins de 24 heures, alors que la tension monte dans les territoires occupés. Amar Shafir Abu Afif a été abattu près de la ville de Bethléem. Les forces israéliennes refusent de remettre son corps aux Palestiniens. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont tué deux autres Palestiniens lors d'un raid sur le camp de réfugiés de Jenin. Mardi a été déclarée journée de colère en Palestine avec des manifestations organisées dans toute la Cisjordanie occupée en solidarité avec les prisonniers qui sont dans les prisons israéliennes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran s'oppose fermement à toute utilisation d'armes chimiques. La représentante permanente adjointe de l'Iran auprès de l'ONU, Zahra Ershadi, a déclaré que la République islamique, en tant que principale victime des armes chimiques, s'oppose fermement à l'utilisation de telles armes meurtrières pour quiconque, n'importe où et en toutes circonstances. Madame Ershadi, lors d'une allocution devant une session du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Syrie, a fermement condamné lundi l'utilisation d'armes chimiques dans le monde. Se déclarant préoccupée par les graves effets de la politisation de l'application de la Convention sur les armes chimiques, CAC, sur sa crédibilité, Madame Ershadi a déclaré que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ne devrait pas être exploitée à des fins politiques pour aider certains pays à atteindre leurs objectifs intéressés et que la Syrie a connu ces dernières années de tels efforts de la part de certains États membres. Zahra Ershadi a salué la coopération continue de la Syrie avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, et a déclaré que les réunions du Conseil de sécurité sur l'affaire chimique syrienne ne devraient pas être consacrées à discuter d'allégations sans fondement, puisque le gouvernement de Damas a fait des progrès scientifiques dans le respect de ses obligations en vertu de la CAC. Ce n'est qu'en détruisant complètement toutes les armes chimiques à travers le monde et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir que de telles armes ne seront pas créées que nous pourrons être sûrs que les armes chimiques ne seront pas utilisées, a souligné Mme Ershadi. L'ambassadeur iranienne a déclaré que l'objectif n'a pas encore été atteint puisque les États-Unis, en tant que seul État membre en possession de telles armes, ne respectent pas leurs obligations concernant le délai prolongé pour la destruction des armes chimiques.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors la mobilisation anti-française au Mali se poursuit à travers des manifestations d'envergure à travers tout le pays, exigeant bien sûr le retrait immédiat et total des troupes françaises du Mali. Alors cela fait 9 ans que l'occupation existe des Français au Mali. Une occupation qui se traduit par des couteaux plantés sur le dos des Maliens, un couteau du terrorisme, donc pillant la richesse de ce pays. Est-ce que ce retrait français va compenser des milliers de morts et la richesse volée aux Maliens? Sans doute pas. Les Français vont partir, sans doute, très humiliés. Mais selon beaucoup d'experts politiques, ce retrait sera la fin de France-Afrique. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
C'est un mensonge éhonté que de prétendre qu'il n'y a eu au Mali ce samedi et à l'occasion d'une manif célébrant l'expulsion de Barkhane que quelques centaines de Maliens. Mais la puissance d'occupation ne croyait jamais avoir un jour à prendre ses clics et ses claques et être forcée à se barrer humiliée des territoires maliens. RFI écrit, ce samedi, des centaines, voire quelques milliers de personnes se sont réunies à Bamako pour manifester leur joie suite au départ annoncé de troupes françaises du Mali. Ce rassemblement s'est tenu à l'appel du collectif Yerevan le Debout sur les remparts, qui réclame depuis sa création il y a 3 ans le retrait de l'armée française du pays. On comprend parfaitement que les journalistes de RFI aient à revoir à la baisse le nombre des manifestants pour chercher à limiter l'ampleur de la défaite que Barkhane a subie au Mali face à une population soudée qui a réussi à mettre à l'échec le projet du démembrement du pays, et ce au prix du sang versé des milliers de Maliens dont personne ne parle. mais avouons que le lecteur a du mal à comprendre tout de suite cette tentative de collectiviser la joie que chaque Malien patriote sent au plus profond de son être depuis que le gouvernement a exigé à la force d'occupation, responsable des milliers de crimes de guerre, de quitter immédiatement le Mali, et ce avec en toile de fond une remise en question nette des accords dits de défense imposés par la France au Mali. D'où ce média mensonge qui prétend qu'il y avait moins de manifestants maliens que prévu. Face à une scène, une foule de manifestants remplit le versant nord de la place de l'indépendance pour une mobilisation moins importante qu'annoncée. Et puis cette autre tromperie que le journaliste de RFI fait dire à une centaine de manifestants qui affirme « Perpétue Uro-Ogon, enseignante, fustige le peu de résultats de l'intervention Barkhane. Elle est amère et pressée de voir les contingents français quitter son pays. La France nous a dessous. Dès aujourd'hui, ils n'ont qu'à plier bagages. On a assez avec cette armée française. On n'a pas besoin de la France. » Et RFI de poursuivre. La Russie, tout comme son drapeau présent dans l'Assemblée, est brandie comme le nouvel allié. Placé sous le signe de la victoire, ce meeting se veut une célébration. RFI affirme qu'en 2012, quand la France venait libérer Kona, on était tellement content qu'on a même baptisé des enfants au nom de François Hollande. Mais si tu vois aujourd'hui que ce même peuple se lève pour dire « Allez-y », ça veut dire que la France a failli. En effet, ce que RFI tente de faire, c'est ni plus ni moins d'effacer des années d'occupation. Et comment ? Eh bien, jamais le peuple malien n'a demandé à ce que la France vienne occuper son pays. Jamais les terroristes ni la violence n'existaient avant que la France vienne occuper le nord du Mali et chercher via l'accord d'Alger à amputer le nord du reste du pays. La France n'a donc pas déçu. Elle a fait son projet de déstabiliser le Mali et au-delà le Sahel, ce qui veut dire que cette expulsion, si elle est aujourd'hui célébrée et que la France cherche à en faire endosser la responsabilité à la Russie, comme si les Maliens n'avaient pas le droit souverain de choisir avec qui s'allier, elle pourrait demain déboucher sur d'autres choses. Plainte contre la France pour plus de 8 ans de crimes de guerre et la responsabilité de la mort des milliers de Maliens dont aucune instance des droits de l'homme ne se soucie guère.
Voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité que je crois connaître, M. Michel, je crois.
Oui, justement, effectivement, il s'agit de M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, bonjour surtout à tous nos téléspectateurs. Je sais qu'ils sont très fidèles de cette émission.
C'est grâce à vous un peu, M. Luc Michel. Alors ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier concernant justement ces manifestations d'envergure à travers tout le pays. M. Pierre Dortiguier, est-ce qu'on peut dire que tous les Maliens, presque 100% des Maliens ont participé à ces manifestations exprimant leur joie du départ des troupes françaises, un retrait humiliant, n'est-ce pas, pour la France ?
Oui, c'est un effet humiliant. C'est le signe d'une incapacité, quand même, au premier plan militaire, même s'il y a des arrière-pensées derrière ou des dessins. Comment justifier, aux yeux même de l'opinion publique française, par exemple, tout autant que malienne et africaine, qu'une troupe ne réussisse pas à éliminer des terroristes au bout de 8 ans ? Bon, c'est quelque chose qui est... je ne dis pas qu'il y a une complicité, forcément, mais il y a quand même un lien. C'est-à-dire qu'on sent que la présence des terroristes était aussi un argument, voyez-vous, de maintien d'une troupe française qui soit là pour pouvoir peser, disons, sur l'avenir politique du Mali. Je dirais que le reportage montre bien cette déception de l'opinion malienne. Il ne s'agissait pas d'un préjugé contre les Français au départ, puisqu'il est allusion au nom de François Hollande, etc., tout cela. Bon, il y a simplement un constat de la population et des élites maliennes que, paradoxalement, disons, la présence française, loin d'écraser le terrorisme, c'est en réalité reposer sur son maintien pour maintenir ses forces, mais ne pas les utiliser. Car bien sûr, nous avons eu, je crois, on déplore, je crois, 53 morts. Bon. Mais enfin, même vis-à-vis de l'armée française, c'est très très difficile quand même vis-à-vis de nos soldats de justifier quand même une telle impéritie, je veux dire, j'entends par impéritie un tel manque d'expérience. Quel a été donc le but de cette intervention militaire? Est-ce, comme naturellement il est dit, et ce n'est pas faux, de maintenir une sorte de France-Afrique? Maintenant, il y a une question peut-être qu'il faudrait débattre, dont il faudrait débattre. Est-ce que ce départ qui est annoncé maintenant, le définitif des Français, est-ce qu'il n'est pas une conséquence, par exemple, aussi, disons, de ce que M. Macron a discuté à Moscou, par exemple, avec M. Poutine? Je crois qu'il y a quand même, à propos de l'Ukraine, je crois qu'il y a non seulement l'entretien sur l'Ukraine, mais qu'également la question du Mali a été posée. Je pense qu'il y a des accords, disons, non pas secrets, mais enfin discrets, et que nous devons nous attendre quand même à un retrait définitif de l'armée française.
Oui. Luc Michel, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons entendu les propos de M. Pierre d'Ortiguier. Et comment vous traduisez cette joie de presque 100% des Maliens qui ont participé à ces manifestations, je vous prie?
Je voudrais tout d'abord dire une chose, c'est que la soi-disant accord qui aurait été fait entre le Mali et l'Ukraine, c'est-à-dire que le Mali aurait été changé avec les Russes par l'Ukraine, c'est un mensonge de la propagande du Quai d'Orsay. Ça ne profite qu'aux Français. Il n'y a pas eu de tels accords. Et d'ailleurs, à Moscou même, Macron ne s'était pas encore retiré, que le Kremlin précisait qu'aucun accord n'avait été conclu avec la France. Il ne faut pas que les mensonges du Quai d'Orsay soient avalisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est que le but des guerres coloniales depuis la guerre d'Algérie, c'était la conquête des esprits et des cœurs. Les Français ont perdu les esprits, ils ont perdu les cœurs. Les Maliens se réjouissent du départ des Français pour lequel ils se sont mobilisés par milliers d'artifices de la propagande. C'est de faire croire que la population ne serait pas en joie. En réalité, la France, en arrivant au Mali, elle avait un projet. Ce projet, c'était la fameuse géostratégie des généraux américains, des généraux français, ce qu'on appelle la géostratégie du chaos. À la suite de la destruction libyenne en 2011, la France et les Américains ont tenté un scénario à la libyenne dans deux pays voisins, la Centrafrique et le Mali. Le vrai texte de cette géostratégie du chaos, c'était la guerre contre le terrorisme. En réalité, le terrorisme n'est pas l'ennemi des Occidentaux. Il est un vrai texte à leur arrivée militaire. Pendant 8 années de guerre, les Français ont eu 53 morts. Que l'on compare avec le Vietnam entre 1960 et 1968, là dans une véritable guerre et non pas dans une comédie, il y a eu plus de 100 000 morts. Et face à ces 53 morts, ces 53 militaires français, il y a eu pendant les 8 années de l'intervention française au Mali qui viennent de se terminer, il y a eu plus de 10 000 civils morts maliens, tués par la plupart, pas seulement par le terrorisme, mais surtout par l'armée française d'occupation elle-même, notamment par la sale guerre des drones, qui, comme en Pakistan et en Afghanistan, est une guerre menée contre des populations civiles. La France, elle part honteuse et elle essaye de faire croire, évidemment, qu'elle ne part pas sous les vivants de la population. C'est totalement faux. Le soulèvement du Mali, il a commencé par une pétition il y a 2 ans. Elle s'intitule « Vladimir Poutine vient sauver le Mali ». Elle avait recueilli 8 millions de signatures maliennes. C'est cela la réalité que l'on veut dissimuler à Paris. Il y a tous les médias français, notamment ce que j'appelle le moniteur de la France-Afrique, Jeune Afrique. Il lance évidemment toute une série d'accusations, notamment contre le fantomatique groupe Wagner, qui n'existe que dans la propagande occidentale. Ce jour, Jeune Afrique publie au nouveau, après avoir fait un dossier similaire sur la Centrafrique, elle publie un dossier sur Wagner au Mali. c'est dérisoire. Les mensonges de la propagande, évidemment, ne dissimulent pas la déroute néocoloniale de l'armée française.
Absolument. Alors, Pierre d'Ortiguier, M. Luc Michel a très bien défini la situation au Mali et bien sûr ces manifestations d'envergure qui se traduisent par la joie des Maliens. Mais la France a tout fait pour neutraliser militairement et économiquement ce pays depuis presque 9 ans. Des milliers de morts chez les Maliens, des dizaines de morts chez les Français, pillant la richesse de ce pays. Est-ce que ce retrait ne va tout de même pas compenser la richesse volée aux Maliens tout de même, n'est-ce pas? Cette humiliation est suffisante pour les Maliens, cette humiliation des Français?
Non, ce ne sera pas, bien sûr, que le retrait, comme vous le dites si bien, ne pourra pas compenser ces maux infligés au Mali. Je crois que ce que les Français subissent maintenant, ce que nous subissons, disons, puisque c'est que c'est le résultat, bien sûr, de la politique de France-Afrique, que connaît très bien M. Louis Michel, mais aussi, c'est une conséquence, disons, une sorte de, je dirais, de justice, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il faut bien l'avouer, de notre intervention contre la Libye. Je crois que vous avez fait allusion, M. Michel y a fait allusion, en effet, nous payons très très cher cette désorganisation de l'Afrique. Nous avons essayé, disons, de maintenir cette France-Afrique ancienne, malgré ce qu'on pourrait appeler le vent de l'histoire, malgré, disons, cet essai qui était autant matériel que financier, disons, surtout financier, de faire une monnaie forte en Afrique, qui était, disons, impulsée par le colonel Kadhafi, bon, que nous avons fait éliminer, disons, dans des conditions atroces. Je crois que nous payons cela, et que je pense même que l'intervention libyenne, il y a de quelques années, mais quand même récente du point de vue historique, a certainement impressionné, disons, ou détaché la population de ce qu'on pourrait appeler le protectorat français. Bien sûr, il y avait des choses qui étaient très mauvaises, il y avait un esprit d'exploitation des lieux, etc. Mais il y avait encore un prestige de la France, tenant à différentes raisons, différentes raisons matérielles autant que spirituelles. Mais là, tout ceci s'est trouvé balayé. Je prends acte de ce que dit M. Michel, justement, sur la propagande, par exemple, sur le groupe Wagner et autres. Moi-même, disons, je m'y suis laissé prendre parce que nous lisons la presse ici, voyez-vous. Nous sommes, comment on peut dire, enveloppés par une sorte de brouillard. Les Français ne se rendent pas très bien compte, à mon avis, encore ici, là, je parle de la métropole, de la situation en Afrique. Je ne dis pas entièrement caché, mais transformé, déformé, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Mais en tout cas, c'est un événement aussi important, mais disons en notre défaveur, que l'a été justement la chute du colonel Kadhafi en Libye, voyez-vous. Là, nous recueillons les monnaies de la pièce, voyez. On peut dire qu'il y a une justice historique, et si mes compatriotes se plaignent de la situation, il faut qu'ils s'en prennent aussi à la politique de Sarkozy, etc. Bien sûr qu'il n'était pas une initiation, c'était pas une initiative, disons. Il y avait cette politique de France-Afrique, de Focard, etc., que M. Luc Michel et nos auditeurs connaissent fort bien. Mais disons que les conséquences, en tout cas, seront très importantes, en France même, sur le plan politique. Je dirais même, je n'ose pas dire sur le plan social, parce que c'est bien déterminé, mais disons qu'il y aura une désaffection chez nous envers les autorités. Cette désaffection, et même un certain, peut-être, je conclurai là-dessus, une certaine acrimonie, disons, contre venant de la part de l'armée. Il est possible que une partie de l'armée n'accepte pas, ce qu'on pourrait appeler la défaite.
Oui. Monsieur Luc Michel, comment, à votre tour, vous définissez les conséquences pour la France de ce retrait? Tout de même, pas, cela ne va pas compenser la richesse volée aux Maliens pendant ces 9 ans. C'est des milliers de morts. Juste une humiliation, l'indignation des Africains à l'égard de la France, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, Monsieur Luc Michel?
Et nous avons connu en Afrique des décennies de pillage économique, par exemple Paris, qui ne produit pas une once d'uranium sur le sol français, elle exporte des centrales nucléaires avec Areva, cet uranium, il est volé au Mali et au Niger. Mais à partir de... Nous avons donc vu des décennies d'expéditions militaires et de brutalité occidentale. Ce qu'a été la meilleure exemplation, la meilleure illustration, ça a été la destruction de la Libye. Mais à partir de 2015, il y a un double phénomène. D'une part, il y a l'arrivée du bloc de l'Est en Afrique, les Russes, mais aussi l'Iran depuis 2018. Et les Chinois qui aujourd'hui ont un agenda géopolitique et plus un agenda économique, il y a eu d'autre part un second phénomène, c'est l'irruption, l'organisation des masses africaines par ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. Je m'honore d'avoir participé à ce phénomène avec la grande télévision panafricaine Afrique Média et ses 220 millions de téléspectateurs qui ont conscientisé les masses africaines. C'est l'union des masses panafricaines et l'arrivée du bloc de l'Est qui a pris tête un étau dans lequel occidental qui est représenté par son ventre mou, l'impérialisme français. C'est le résultat de tout cela. Elle a été étudiée par le grand état-major français dès 2015 qui avait publié un rapport à l'usage de l'Élysée. Elle indiquait que le principal ennemi des Occidentaux et de la France en Afrique au cours des 20 prochaines années, ça serait l'alliance du néo-panafricanisme, justement, avec la Russie. C'est à cela que nous avons assisté. C'est cela qui a vaincu l'impérialisme occidental, dont je le rappelle, le ventre mou est l'impérialisme français. Les Français sont les premiers à partir, mais après eux, les Américains avec l'Africom, les Allemands avec la Bundeswehr, les Belges, les Espagnols, etc., vont tous partir la queue entre les jambes. C'est l'heure du grand réveil de l'Afrique. On ne volera plus à l'Afrique les indépendances africaines et la dignité. C'est le temps perdu de l'impérialisme, du néocolonialisme et de l'exploitation.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que la France-Afrique, c'est l'histoire ancienne ?
La France-Afrique, on assiste à son agonie. Lorsque s'est élevé le sommet de Montpellier il y a quelques mois, qui voulait revitaliser le projet d'une France-Afrique 2.0 que porte le régime macronien depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, eh bien, il y a un livre qui est sorti qui est un bilan historique de la France-Afrique. Il s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir » et il est sous-titré de la même façon que nous le disons à Afrique Média ou la presse TV. Il dit « pillage, néocolonialisme, coup d'État, massacre, etc. » C'est le bilan de la France-Afrique. L'Empire qui ne voulait pas mourir, il est en train, il est à l'agonie devant nos yeux. L'histoire pour le général de Gaulle avec de la France-Afrique. L'histoire retiendra qu'aujourd'hui, en 2021-2022, un président Macron et un monsieur Focard-Bis, Le Drian, ce sont les architectes de la défaillance française, de ce qu'un autre livre appelle aujourd'hui le déclassement français. Ce déclassement, il est définitif. Il n'est pas valeur celui uniquement de la France-Afrique, puisque ce déclassement, il a lieu aussi au Proche-Orient, en Syrie et au Liban. Il a lieu au Pacifique, face aux menées de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain tente dans le Pacifique de créer ce qu'on appelle l'OTAN du Pacifique, le Quad. Les Américains ont donc exclu la France. La France, elle est en déclassement partout, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, au Proche-Orient, en Méditerranée, en Asie centrale, au Caucase, au, bien entendu au Pacifique. C'est la fin de l'impérialisme français.
Oui, Pierre Dortiguier, à votre tour, est-ce que vous pensez que le retrait des troupes françaises du Mali est traduit par la fin de France-Afrique.
Oui, en effet, c'est la fin de la France-Afrique. Bien sûr, je ne puis qu'approuver ce que dit Jean-Luc Michel sur le déclassement de la France de façon générale. Je crains, disons, comme Français, étant voyant de près les réactions de ce qu'on peut appeler les élites ou les gens, de façon générale, je crains que cette défaite, cet écroulement plutôt, parce que c'est plus qu'une défaite, cet écroulement de la France-Afrique, enfin, au Mali, n'entraîne justement un ébranlement même du système politique français, c'est-à-dire ne touche même aux assises de la Ve République, laquelle s'était fondée, il faut le dire, sur cette nouvelle politique africaine. Il n'y avait pas que cela. Il y avait des raisons intérieures, mais il y avait également quand même des jalons extérieurs, si vous voulez, à cette construction politique. Je crains que nous ne rentrions dans des troubles en France qui seraient consécutifs, justement, à cette grande défaite qui est ressentie par l'armée, bien sûr, mais qui sera ressentie quand même par beaucoup de milieux économiques. Toute notre puissance atomique, par exemple, venait de l'exploitation de l'uranium et autres. Alors donc, est-ce que nous serons suivis même par nos partenaires européens? Ce n'est pas sûr. Je crois que la France est non seulement déclassée, mais elle risque, à notre grand malheur d'ailleurs, d'être isolée à l'intérieur même de la politique européenne. Voyez-vous, je crois que, parce que l'Europe ne forme pas un bloc, à mon avis, là-dessus. Je crois que l'Allemagne a ses intérêts particuliers, encore en Russie en premier, et ne nous suivra pas, disons, dans ce naufrage.
Oui. Et Luc Michel, pour terminer, est-ce que vous pensez que cette mobilisation anti-française, qui est très contagieuse justement, car dans les pays voisins comme le Niger ou au Burkina Faso, nous sommes également témoins de cette vague d'indignation à l'égard de la France, est-ce que vous croyez que ça va aboutir?
Oui, même pas une vague de fond, c'est un tsunami qui va emporter l'impérialisme français. Il y a eu au cours des derniers mois des manifestations gigantesques en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso. On annonçait il y a quelques jours les premières manifestations au Tchad contre la présidence française. Ces manifestants, évidemment, ils se sont notamment au cours des dernières semaines opposés au déplacement des troupes françaises de Carcasse par la route, depuis le Mali jusqu'au Burkina Faso, etc. C'est gigantesque. Les jeunes Africains sont massivement mobilisés contre la France et contre notamment le franc CFA et les manifestations économiques de l'impérialisme français. La France, elle a perdu la guerre, je vous l'ai expliqué. Elle a perdu les esprits et les cœurs, ce qui était le but des guerres coloniales. C'est la rançon des guerres d'Algérie et des guerres du Cameroun. Les populations françaises ne sont plus dupes aujourd'hui. Les populations africaines manifestent. Mais également, il y a une partie des Français qui a manifesté. Les Gilets jaunes ont manifesté à plusieurs reprises leur sympathie aux populations africaines contre l'impérialisme français. Les politiciens français réagissent par de l'autisme, par de l'arrogance. Ce déclassement français, il est au cœur du débat de la présidentielle française. Lorsque l'on écoute les réactions des partisans de l'impérialisme français, les Zemmour, les Valérie Pécresse, les Macron, les Marine Le Pen, mais aussi Mélenchon, on constate que l'arrogance française répond à une réalité. C'est une forme d'autisme, évidemment, et la France va le payer cher. Je suis d'accord avec le professeur Dortiguier. La France est les seuls. Les Français, les alliés supposés de la France notamment, l'Allemagne, ils ne visent qu'à une chose, c'est ce qui est dans lequel les ont attirés l'impérialisme.
Absolument. Monsieur Luc Michel, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci également à Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
pire que la crise en Ukraine pour les marchés, l'inflation. Les tensions géopolitiques accroissent encore la volatilité des marchés financiers. Mais selon l'analyste Marc Doiti, le risque majeur est celui d'un éclatement de bulles liées à l'inflation. Les banques centrales ont fait du clientélisme pour faire plaisir au marché. Marc Doiti revient ainsi sur les risques financiers qui menacent l'économie mondiale. Avec la reconnaissance par Moscou des républiques autoproclamées du Donbass en Ukraine, une source supplémentaire d'incertitude a saisi les marchés. La frénésie déjà vive depuis plusieurs semaines s'accentue encore. Président du cabinet ACDEFI, Marc Doiti note qu'au fur et à mesure qu'on avait des bruits de bottes en Ukraine, remettez à plus tard l'intervention des banques centrales pour arrêter la planche à billets. Et Marc Doiti d'ironiser. C'est formidable. Ça veut dire que les taux d'intérêt ne vont pas remonter et que les marchés vont pouvoir continuer leur bulle. Ce qui se passe en Ukraine est inquiétant pour les populations, mais pour les marchés, ce n'est pas le point principal, poursuit l'analyste, qui espère que la situation militaire ne dégénère pas. L'inflation est encore plus dangereuse que les tensions en Ukraine. Il faut que les banques centrales arrêtent ce « quoi qu'il en coûte » mondial et reviennent à des politiques monétaires normales, comme cela aurait dû être le cas depuis plusieurs mois. Le cas échéant, Marc Doiti redoute des phénomènes qui peuvent être annonciateurs d'un crash. La crise ukrainienne a révélé la désuétude des alliances européennes comme un tigre de papier. Quand l'Ukraine s'embrase, les marchés du monde s'enflamment, avec une flambée des cours rarement vue en quelques heures. Plus 6% pour le blé, plus 8% pour le pétrole et même plus 47% pour le gaz. Quelles sont les conséquences? D'abord, mauvaise nouvelle pour le carburant. La Russie est le troisième plus gros producteur de pétrole au monde et représente 12% de la consommation française. La guerre inquiète les marchés. Une nouvelle hausse à la pompe est donc attendue. La flambée est encore plus importante sur le gaz, car la Russie est le fournisseur numéro un de l'Europe, avec 46% de la consommation européenne. Pire, le gaz russe passe en partie de l'Ukraine via des gazoducs qui risque d'être endommagé par une guerre d'ampleur. Or, il est difficile de trouver un autre fournisseur au pied levé. Le gouvernement a promis de maintenir le bouclier tarifaire sur le gaz s'il le fallait. La flambée de l'énergie, auquel il faut rajouter celle du blé ou de l'aluminium, risque de renforcer un peu plus l'inflation qui pourrait dépasser les 4% selon plusieurs économistes. La crise ukrainienne risque de peser encore sur les marchés. Une coupure de l'approvisionnement en énergie peut mettre les marchés en émoi et précipiter une récession comme l'ont fait d'autres crises pétrolières dans le passé. La courbe des taux n'a pas arrêté de se tendre mois après mois. Très forte pontification de la courbe des taux. La première hausse devrait intervenir en mars à 0,25%, la probabilité des 0,5% ayant reculé avec la crise ukrainienne. Toujours est-il que la courbe des taux laisse anticiper cette hausse en 2022, mettant le taux d'intervention à 1,75% en fin d'année, avec une probable poursuite en 2023. Les taux longs à 10 ans et plus étant légèrement au-dessus de 2%, la courbe des taux connaîtra un aplatissement qui indique généralement un ralentissement de l'économie. Ces hausses sont néanmoins loin de compenser la hausse historique des prix partout dans le monde, avec 7,5% en un an aux États-Unis et 5,1% en zone euro, fortement impactés par la hausse de l'énergie et des matières premières. les salaires ont eu du mal à suivre cette inflation galopante, mettant en avant des fortes revendications sur le pouvoir d'achat et une potentielle spirale inflationniste. Cette inflation touche également les épargnants qui ne trouvent plus aujourd'hui un placement sans risque, assurant la simple préservation du capital. L'inflation ne va pas revenir de sitôt à son objectif de 2%, étant attendu à 3% sur les 5 prochaines années à partir des emprunts indexés. L'achat d'une résidence principale reste toujours un bon refuge dans la mesure où les taux hypothécaires restent toujours raisonnables. Malgré le niveau élevé des prix, la consommation ne faiblit pas grâce à l'énorme épargne accumulée durant toutes ces périodes de restrictions sur le Covid, et la soif de consommer à tout prix est là, notamment pour le secteur des loisirs. Les restaurants et les lieux de vacances sont pris d'assaut. L'industrie continue toujours à avoir de la peine à faire face à la demande, que ce soit pour l'automobile ou les biens durables. Ceci se traduit par des projections de forte croissance du PIB en 2022, après une très forte reprise en 2021. 3,9% attendu cette année à 4,2% après 5,8% l'année dernière, légèrement revu à la baisse en raison de l'inflation, les récentes incertitudes politiques et le ralentissement en Chine. L'aggravation de la crise ukrainienne pourrait compromettre ces évolutions. Poursuite du rebond de l'après-Covid en 2022. La saison des publications de résultats du quatrième trimestre aux États-Unis a battu des records en matière de profits, affichant une hausse de 29% par rapport à une base positive en 2020. Le géant Apple a lui seul affiché 95 milliards de profits pour 2021 contre 58 milliards en 2020. Les pétrolières ont profité de la hausse du pétrole pour revenir à des profits colossaux et les financières étaient gorgées de profits grâce au trading et à la hausse historique des marchés. Si Microsoft et Google ont poursuivi leur ascension, Meta, ex-Facebook, s'est effondré en fin d'année sous divers coups de butoir et une concurrence plus moderne. Au global, l'année 2021 a vu des profits en hausse de 47%, alors que le cours ne progresserait que de 27%, ce qui a permis de dégonfler les PE. Pour le moment, les profits sont plutôt revus à la hausse, surtout au deuxième semestre. L'année 2021 affiche des profits records, entraînant des hausses modérées en 2022. La correction du marché mondial est limitée à 7,3% cette année, similaire des deux côtés de l'Atlantique. L'indice phare SP500 a terminé à 4 384 points, alors que, selon nos calculs, il devrait se situer à 4 887 points. Cet écart mesure la prime de risque due à la crise ukrainienne. Le marché devrait pouvoir absorber les hausses des taux qui sont actuellement prévues, mais un durcissement dû à une inflation non maîtrisée pourrait faire des secousses plus violentes que l'Ukraine. Une stabilisation de la crise ukrainienne pourrait entraîner une hausse de 4 à 5%, mais une aggravation pourrait également enfoncer l'indice.
Vous pouvez nous suivre en direct sur notre site à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr. Religion, politique, culture, littérature, le tout à travers nos émissions hebdomadaires.